Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Je suis homme, je suis femme, je suis père, je suis mère, je suis Marlon Brando, je suis Sophia Loren, je suis ouvrier, je suis ouvrière, je suis chien, je suis chienne, j'aime être beau. J'aime être belle. J'aime séduire les passants et les passantes qui me dévisagent. J'aime la texture de mon rouge à lèvres. Il dessine et sculpte mes lèvres pulpeuses. Rouge comme le sang. Rouge comme mon cœur. Je suis tout. Je suis la vie.
Vous venez d'entendre la bande-son de Réclamation poétique de Maximilien Ramoul. Vous pouvez regarder la vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est l'introduction parfaite pour l'émission d'aujourd'hui qui porte, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, sur le wokisme. Le wokisme. Rien que le mot m'amuse, comme disait Coluche. Une mode venue des États-Unis. Une mode qui m'inquiète, car elle a tendance à s'imposer comme une pensée unique. Le wokisme, selon le petit Robert, c'est un anglicisme, souvent péjoratif, un courant de pensée d'origine américaine qui dénonce les injustices et discriminations. Mouvement, pensée, woke. Le journaliste et écrivain Jacques Cotta a tenté de comprendre ce qu'était ce mouvement. Il s'en explique dans une vidéo dont voici quelques extraits.
Le wokisme, cette idéologie qui nous vient tout droit des États-Unis et qui est synonyme de débandade idéologique et intellectuelle. Le wokisme, dont une bonne partie de la gauche est friande, réalise en réalité la jonction sur plusieurs points entre la droite et la gauche, entre Macron et Mélenchon, entre une bonne partie de Renaissance des Verts, de la France Insoumise ou encore de la NUPES. Le wokisme se présente comme une idéologie généreuse, portée sur la défense des minorités. Bon, comme le mot en anglais l'indique, le wokisme est censé regrouper les éveillés, contrairement à la grande masse qui, elle, serait endormie. Le terme woke a d'abord été réservé aux questions raciales, puis a été utilisé comme terme fourre-tout. Le wokisme fait l'éloge de la diversité, du décolonialisme, du communautarisme à l'anglo-saxonne, contraire à l'universalisme. Le wokisme encourage toute attitude victimaire des minorités, pour insister sur une repentance jugée nécessaire, bien que pour le moins injustifiée, de la majorité. Excusez-vous pour telle exaction raciste, telle agression homophobe, tel harcèlement à l'encontre d'une femme notamment. Excusez-vous. Ah, vous n'y êtes pour rien. Mais peu importe. Excusez-vous, vous êtes coupable. Voilà tout. Le wokisme encourage les campagnes sur les questions relatives aux femmes, aux LGBT, aux lesbiennes, gays, bi, trans, notamment depuis l'apparition du mouvement MeToo en 2017. Pour certaines, il s'agit d'un véritable fonds de commerce. Daniel Obono, par exemple, fait du communautarisme, du différentialisme, du racialisme sa spécialité. Sandrine Rousseau chez les Verts, ou encore Clémentine Autain à la France Insoumise, se font une spécialité de la chasse à l'homme blanc accusé de harcèlement ou de violence à l'encontre d'une femme. Difficile d'ailleurs de s'en sortir lorsqu'on est pris dans le collimateur. Les Coquerel, Bayou, Quatennens, dans leur propre camp, en savent quelque chose, d'autant plus qu'ils jouent le rôle d'arroseur arrosé après avoir colporté cette idéologie dont ils ont été ou dont ils sont aujourd'hui victimes. La présomption de culpabilité est érigée en lieu et place de la présomption d'innocence. Enquêtes policières et judiciaires sont reléguées au second plan au profit de la rumeur sur la place publique. Le wokisme comprend aussi les mobilisations lors des marches pour le climat, omettant que le réchauffement est inscrit dans le capitalisme, la mondialisation et la course au profit. Comme par définition, il possède une juste vision du monde, et qu'il est le seul, dans ce cas, Le wokisme s'accompagne d'une montée de l'intolérance à l'égard d'opinions opposées et d'un muselage de la liberté d'expression. Le wokisme possède donc un bras armé, la cancel culture, qui a pour objectif officiel de submerger notre culture. La cancel culture se propose d'éjecter de l'espace public toute personnalité dont un propos ou une action est considérée comme offensant à l'égard des minorités. Ici, on déboulonne des statues représentant des personnages jugés indignes ou coupables au regard de la grille de lecture woke, quitte d'ailleurs à réviser ou gommer l'histoire qu'ils représentent. Là, on annule des conférences universitaires, ou encore on brûle des livres, comme cela s'est fait au Canada, par exemple. Là encore, on exige que certains soient démis de leurs fonctions, que les Blancs soient exclus de réunions pour que leur présence ne brime pas les racisés, dit-on. Que les hommes ne soient pas autorisés à participer à certains débats réservés aux femmes, pardi. Le wokisme en ratisse large, sur tous les terrains de la marginalité. Véganisme. Le wokisme intègre les questions à la mode liées au genre. Tiens, l'Espagne joue le rôle de poisson pilote sur ces questions, s'affirmant comme un modèle pour la gauche notamment. Écoutez bien, sous la pression de Podemos, frère espagnol de la France insoumise, eh bien, les députés ont adopté une loi permettant le changement de genre dès l'âge de 16 ans. Gaston, tu te sens mal à l'aise? Te voilà baptisé Juliette, tiens. Et toi, Martine? Tu supportes mal ton corps de fille? Bah, c'est pas grave, on va t'appeler Martin. Cela pourra se faire sans avoir à fournir de rapports médicaux ou de preuves d'un traitement hormonal suivi durant 2 ans, comme c'était pourtant le cas jusqu'à aujourd'hui pour les personnes majeures dans ce pays. Selon quelques modalités mineures, les jeunes de 12 à 16 ans pourront aussi changer librement de genre. Le genre est ainsi placé au-dessus du sexe biologique, le sexe biologique devenant optionnel. Les docteurs Folamour pourront alors s'en donner à cœur joie. Curieusement, c'est la gauche qui est en pointe dans l'adoption et la promotion du wokisme. Aux États-Unis, les ravages du wokisme sont spectaculaires, mais en France aussi. Au musée Cluny à Paris, un universitaire explore, je cite, « les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans ». Au musée Picasso, un magazine s'inquiète sur la possibilité, je cite toujours, de faire entrer Picasso dans le siècle de MeToo. Emmanuel Macron se réjouit. Je cite à nouveau. « Les débats de société sont entrés dans les musées, dit-il. » Ah ben bravo Macron, tiens. La Joconde de Léonard de Vinci, entartée au nom du combat contre le réchauffement climatique, en sait quelque chose. Comme d'ailleurs les tournesols de Van Gogh à Londres, recouverts d'une mélasse par quelques illuminés. Ces idées dites modernes, qui constituent les bases du wokisme, au nom de la tolérance, donc antiracisme ou encore obsession de la race, droit à la différence sexuelle, notamment, au choix de son sexe, donc obsession du genre, véganisme, entre autres. Ces idées, donc, sont les plus intolérantes qui soient et constituent le ferment d'un nouvel autoritarisme. Au nom de la tolérance, les nouveaux croisés woke n'ont que le mot « interdiction » à la bouche. Et c'est là que le capitalisme y trouve son compte, sans même qu'une bonne partie de ceux qui, à gauche, disent vouloir s'opposer au système, ne s'en rendent vraiment compte. Le capitalisme a depuis des décennies mis à mal les piliers républicains qui permettent de vivre ensemble. L'idéologie woke vient apporter sa contribution à cette œuvre de déconstruction. Pour assurer sa domination, le capital doit abêtir, diviser, doit affaiblir. Voilà pourquoi il s'est employé minutieusement à la base, à la source, cassant l'école, lui ôtant sa véritable fonction éducative, façonnant les enfants pour en faire des êtres dociles et adaptés. Tous ses représentants, une fois au pouvoir, de gauche comme de droite, tous ont redoublé d'efforts dans cette voie. Le wokisme est un point de jonction de tous ceux qui ne voient d'autre issue qu'un capitalisme plus ou moins social, plus ou moins autoritaire. Fort heureusement, le wokisme ne concerne qu'une infime minorité de la société. Mais c'est celle-là qui détient les médias, les moyens de propagande, qui donnent à cette idéologie une caisse de résonance incroyable. Toute voix discordante est marginalisée, sinon réduite au silence. Si le wokisme a le soutien des élites, eh bien c'est évidemment par souci électoral en direction de la nouvelle petite bourgeoisie de gauche. Mais cela est en fait secondaire. Ce qui compte, c'est bien l'apport du wokisme au capitalisme, en dévoyant toutes les préoccupations légitimes, la question climatique, tiens, par exemple, vers des voies de garage. Il est toujours possible de louer le climat, d'affirmer son opposition au réchauffement et à la pollution, oui, mais à condition de ne pas remettre en cause la mondialisation, les milliers de paquebots sur les océans, les jets privés des riches ou toute autre source du mal qui participerait à la bonne marche du système. À la lutte des classes, le wokisme préfère la lutte des races, ou encore l'obsession du genre. Voilà dans quoi la gauche, notamment, est engagée. Le wokisme est l'allié du système et du capitalisme. Son but est de faire passer au second plan la course au profit inouï dont bénéficie une petite minorité, l'état de l'industrie qui est à genoux, les 8 millions de chômeurs, la baisse des indemnisations, les radiations de Pôle emploi par centaines de milliers, faire passer au second plan les 10 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'inflation qui appauvrit encore les plus démunis, l'impossibilité de se nourrir pour des millions de Français à partir du 20 de chaque mois, faire passer au second plan le coût de l'énergie, électricité, gaz, gasoil devenu inaccessible, les faillites de PME, de TPE, la soumission à l'Union européenne, l'alignement sur les Américains et l'OTAN, faire passer au second plan la liquidation de notre souveraineté et en fin de course, la destruction de la France. Plus immédiatement, son but est de faire oublier la réforme des retraites de Macron, comme sa loi immigration. Parlez d'autre chose et foutez donc la paix à ceux qui régissent nos vies. Et vive le wokisme, disent-ils. Et en prime, son but est aussi de banaliser la situation sanitaire qui n'a fait qu'empirer depuis la crise du Covid, où on pensait pourtant avoir touché le fond, la pénurie de lui, la pénurie de médicaments. Après Omicron, tiens, voilà la bronchiolite. Après la bronchiolite, voilà la grippe. Et l'hôpital, toujours surchargé. Les personnels, toujours maltraités. Les patients payant toujours les frais. Le wokisme, l'obsession de la race, ou du genre, n'a bien d'autre but que de faire passer au second plan la réalité vécue par des millions de Français. Voilà pourquoi la bataille idéologique prend toute son importance. Son issue conditionne en partie la capacité de s'organiser, de s'unir, de se rassembler sur les questions politiques et sociales de première importance.
Et maintenant, un petit intermède avec les goguettes. On change pas à pas.
Je ne mange pas trop sucré ou trop gras, mais parfois je bois un coca. Je ne mange pas d'animaux jamais, mais le poulet ça compte pas. C'est ma mère qui dit ça. Je n'achète pas de vêtements à la mode, sauf parfois quand ils sont en solde chez Shine ou Zara. Et je n'oublie pas d'éteindre la lumière chaque fois que je veux dormir. Comme ça je gaspille pas, je ne cautionne pas l'esclavage des enfants, mais j'ai un iPhone 23 qui va me tenir 6 mois. Je ne soutiens pas les multinationales, les Uber et les GAFA. Je l'ai posté sur Insta. Je suis au combat contre les injustices, oui, mais à la dernière manif, j'avais cours de yoga. Je n'oublie jamais de trier mes déchets, mais les capsules de café, je sais jamais où ça se met. Je ne commande jamais de trucs sur Amazon, à part pendant le Black Friday. C'est moins cher, c'est vrai. Je suis pas fier de ça, mais c'est pas une raison pour monter la tonne. Franchement, c'est pas sympa, c'est trop haut pour moi. Il faudrait redescendre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah bah voilà comme ça. Bref, je disais quoi? Ah oui, tout ça pour dire qu'on n'est jamais aussi droit que ce qu'on dit ou croit. Car si tu grattes là, y a bien un contresens, une légère incohérence dans nos actes et nos choix. On a tous en nous ces petites dissonances qui font que toujours on avance, mais pas trop vite surtout. On change pas à pas, et c'est à ça qu'on voit qu'on n'est pas une IA.
Toujours un régal, les goguettes. Jacques Cottin évoquait la déconstruction, un terme que j'ai beaucoup de mal à assimiler. En fait, c'est quoi un homme déconstruit? Écoutons Sandrine Rousseau, la créatrice de ce terme, s'expliquer.
Je voulais d'abord revenir, avant de revenir sur l'actualité, sur le style Sandrine Rousseau, parce que la primaire écologiste vous a exposé au grand public, mis en lumière des thèmes comme l'écoféministe, ou des expressions. Et c'était sur ce plateau, vous avez dit, je vis avec un homme déconstruit, j'en suis hyper heureuse.
Il y a plein de monsieur patates qui ont circulé partout sur Twitter pour essayer de voir ce que c'était un homme déconstruit. Je vous rassure, c'est pas un monsieur patate du tout.
Alors, justement, voilà. Je ne fais pas confiance à des hommes et des femmes qui n'ont pas fait le chemin de la déconstruction. Donc, ça a suscité, des compliments, beaucoup d'ironie, beaucoup d'interrogations. Alors, peut-être que c'est le moment de nous dire exactement ce que c'est.
Bah, un homme déconstruit, c'est tout simple. C'est un homme qui a réfléchi aux normes implicites de la société qui font que ça favorise sa situation dans la société. C'est un homme qui ne se laisse pas enfermer dans un schéma de différence de genre homme-femme où les hommes vont au travail quand les femmes font la vaisselle, quoi. Et c'est quelqu'un qui surtout a conscience de toutes les normes implicites. Par exemple, dans une réunion, c'est celui qui va comprendre que oui, les femmes doivent avoir autant la parole que les hommes et que la parole
des femmes.
C'est
un peu un homme féministe. Ou c'est un homme tout simple. Non, mais c'est tout simple, c'est-à-dire c'est un homme qui respecte le droit des femmes à l'égalité totale. Parce que le mot déconstruit.
Mais qui a fait aussi un chemin sur lui-même et sur ses propres pratiques. Et c'est ça la différence avec peut-être juste une déclaration d'être féministe. Parce que oui, on peut être féministe,
Même pour les droits des femmes, je dirais, même s'il ne se dit pas féministe, parce qu'il y a un côté mea culpa dans le côté déconstruit. Est-ce que c'est obligatoire?
Mais c'est pas un truc mea culpa, c'est juste de dire on ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'est Simone de Beauvoir qui l'a dit. Mais ce qu'elle a oublié de dire et ce qui me semble essentiel, c'est qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et on le devient de la même manière. Et que comprendre le chemin qui nous construit femme ou qui nous construit homme, c'est absolument déterminant pour changer notre modèle de société et faire en sorte qu'on change notre rapport aux autres.
Et donc, on le déconstruit pour savoir comment, à quel moment dans sa vie, on vous a obligé, on vous a donné une forme d'injonction d'être l'homme à tel endroit, à tel moment, dans telle situation.
Mais c'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est un ensemble vraiment de petites choses
mais
qui font que...
Ça peut être très naturel aujourd'hui. Ça peut être très naturel aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui le font et qui le sont.
Heureusement, Ruth. Heureusement.
Ruth El-Krieff, pardon.
Heureusement. Heureusement que les hommes font ce chemin-là, parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin pour une société égalitaire que les hommes fassent ce chemin-là. Et je pense que dans les jeunes générations, cette notion-là de déconstruction, elle ne fait même pas débat en réalité.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. En fait, elle avance beaucoup.
Mais bien sûr.
Elle avance beaucoup.
Vous vous doutez bien que je ne peux faire aucun commentaire devant de telles inepties. Mais restons sur cette écoféministe qui avait, dans le débat politique, incriminer le malheureux barbecue, symbole de la domination masculine.
J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur. Aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, le système de consommation dans lequel nous sommes, nous envoie dans le mur.
Et à une vitesse... Désigner des groupes et des fautifs.
Et à une vitesse qui défie l'entendement. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vécu cet été, même les climatologues disent que c'est au-delà des prévisions qu'ils avaient faites. Mais donc la question c'est quelle est la structure sociale qui nous empêche en fait d'agir. Où sont les blocages dans la société qui nous empêchent d'agir à la hauteur de ce que nous devrions faire? Parce que tout le monde a le constat partagé, on l'a vu cet été pour la première fois concrètement, mais ça fait des années que les chercheurs et chercheuses nous alertent sur les conséquences de notre mode de vie. Où sont les blocages dans la société? C'est ça que j'essaye de faire
en fait. Est-ce que vous comprenez le sentiment de stigmatisation? Est-ce que vous le comprenez à travers toutes les réactions cette semaine?
Oui, j'ai reçu des centaines de photos d'hommes qui se prenaient en photo devant leur barbecue. Et merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. La question, en fait, c'est pas pourquoi ils se sont sentis attaqués? Pourquoi individuellement se sont-ils sentis attaqués alors que ce que je dénonçais, c'était une structure sociale, un rapport de domination? Pourquoi? Et pourquoi en font-ils quelque chose d'identitaire, en fait? Alors que, justement, on sait, toutes les études montrent que j'ai raison et qu'il faut changer notre mode de consommation, notamment de viande. Pourquoi derrière il y a ce réflexe identitaire de se prendre en photo derrière un barbecue? Moi je pense que ça interroge la psychologie collective en réalité, c'est-à-dire que là je pointe un rapport de domination, je pointe un rapport à la viande et je pointe un changement culturel à opérer parce que dans les gestes individuels que nous avons à faire, parce que nous avons des gestes individuels à faire, ce ne sont pas les seules solutions contre la crise climatique, mais nous devons en faire. Et bien parmi ceux-là, la viande fait partie des gestes qui ont le plus d'efficacité.
Si seulement l'on pouvait m'expliquer ce qui se passe dans la tête de cette députée. Et les journalistes se jettent sur le sujet pour ne pas soulever les vrais problèmes de notre monde. Rions un peu en écoutant Rokhaya Diallo dans l'émission de Brunet sur RTL. Tous ces rigolos qui se prennent au sérieux veulent nous imposer leur vision d'un monde woke, me donnent l'impression d'être au comptoir du café du commerce.
Comment peut-on dire que c'est un acte de virilité que de faire griller un morceau de viande ?
Alors moi, je trouve qu'il y a eu des mots extrêmement durs à l'égard de Sandrine Rousseau. Je pense qu'elle dit des choses qui sont souvent caricaturées, qui on refuse de comprendre. Je crois que l'association entre la viande dans notre société, dans notre imaginaire collectif, entre la viande et la masculinité, est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le fait d'être végétarien, par exemple, c'est un trait qui est davantage féminin qu'un trait masculin.
Et les études de sociologie, d'ailleurs, le montrent.
Et ça fait très très longtemps, en fait, que des anthropologues comme, par exemple, Paolo Latabè a fait la relation, en fait, entre l'activité masculine autour de la viande, autour du feu, autour de sa découpe, même à table, qui est construite socialement. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas parce qu'on est génétiquement programmé en tant qu'homme et en tant que femme pour avoir une appréciation particulière de la viande, mais on est socialisé à la viande et associé à une forme de masculinité, aussi bien sa conquête dans la chasse, le combat contre ce qui peut devenir de la viande, par exemple dans les corridas, que sa cuisine, mais sa cuisine dans la forme la plus spectaculaire et la plus associée au feu. Donc effectivement, Sandrine Rousseau a raison. La masculinité en France, et je vous invite à lire d'ailleurs un excellent livre d'une journaliste qui s'appelle Nora Boisouni, qui s'appelle Steakisme, qui raconte justement comment la manière dont notre société continue à associer la viande avec la virilité et comment les hommes sont encouragés à consommer de la viande. Comme voilà, quand on pense à ces pubs, à ces publicités sur la viande, notamment la viande rouge, exactement. Je ne voulais pas faire de publicité, mais qu'on associe à une certaine à une certaine puissance musculaire qui est encore considérée comme étant masculine. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas. Je pense que Sandrine Rousseau ne fait pas le buzz. Elle fait simplement, elle met le doigt sur des recherches qui existent depuis très longtemps dans le
domaine. Vous m'avez convaincu, mais cela dit, une fois qu'on a dit nature, faire griller de la viande sur un barbecue,
par culture,
est plus masculin que féminin. Bon, ben ça, moi j'ai une fille de 15 ans, elle me dit, papa, j'ai fait un rêve, j'étais dans un monde de viande et je piochais comme ça dans des murs, en me promenant dans la rue, des morceaux de steak haché. J'ai une fille de 15 ans qui est une viandarde pathologique alors que moi, je suis à deux doigts d'être
végétarien.
Bon,
Eric, excusez-moi.
Elle a le droit de faire griller de steak.
Excusez-moi, effectivement, les hommes mangent plus de viande, mais quand on est travailleur de force et qu'on a 15 fois la masse musculaire de Sandrine Rousseau, il est normal de manger plus de viande. C'est sûr qu'un travailleur de force va consommer plus de viande rouge qu'une femme qui est professeure d'université comme Madame Rousseau.
Mais il y a des femmes qui font du travail aussi physique.
Mais il y en a moins. Il y a plus de travailleurs de force en Europe qui sont des hommes que
c'est
des femmes.
C'est pas la seule
raison. Depuis toujours, ça c'est une réalité, c'est un fait. Et donc, moi je pense que les Verts, à force de dire que tous les petits plaisirs populaires comme le barbecue sont des péchés, je pense que les Verts vont perdre l'électorat populaire. Je pense qu'ils ont tort de culpabiliser tous les petits plaisirs populaires les uns après les autres, le Tour de France, les arbres de Noël, le barbecue. Ils sadisent les classes populaires. Et je pense que les Verts ont tort parce que s'ils veulent conquérir une partie importante de l'opinion, ils peuvent pas se limiter aux bobos riches parisiens. Il faut qu'ils s'étendent. Or, aujourd'hui, ils attaquent en permanence les plaisirs populaires et je pense que c'est une faute politique.
Non, mais rapidement, par rapport à ça, la masse musculaire des hommes telle qu'elle est aujourd'hui, elle est aussi liée à des choix historiques qui ont été faits dans la distribution de nourriture entre les hommes et les femmes. Il y a des études qui montrent que les femmes ont longtemps été privées des aliments les plus nutritifs et qu'aujourd'hui, les physionomies des hommes et des femmes sont aussi liées à des choix qui ont été faits historiquement. Et ça... Oui.
Pourquoi les gens issus, par exemple, des familles royales, des familles princières ou aristocratiques sont plus grands que les gens qui sont issus du monde ouvrier? En général, moi, c'est une observation totalement empirique, basée sur aucune statistique, mais j'ai observé ça, moi, dans ma vie, au fil des années. Parce qu'au fil des siècles,
il y a eu, probablement, avec de la nourriture qui était probablement...
Non, mais moi, j'ai observé ça. Non, Laurent Alexandre, j'ai observé ça. C'est du Brunet observating. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que la différence de taille entre les hommes et les femmes soit liée à des siècles de culture alimentaire différente.
C'est ça existe chez tous les animaux, chez tous les mammifères. Les hommes, les mâles ont plus de masse musculaire que les femelles. C'est une réalité physiologique incontestable. Et c'est pas d'être extrême droite que de le souligner.
Brunet se transformant en scientifique de bistrot pour énoncer une imbécilité, les descendants de rois sont plus grands que les autres. Et ces gens-là sont payés des fortunes pour tenir leur émission. Ce sont ces petits bourgeois qui lancent les anathèmes contre Depardieu et bien d'autres. Les mots magiques pour ces nantis sont violeur, viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Ils veulent nous faire croire que toutes les femmes ont été violées, que tous les hommes ont un pénis à la place du cerveau. Lovely Woke aurait dessiné Gottlieb. D'ailleurs, il est intéressant d'écouter Natacha Polini sur l'affaire Taha Bouaf, qui ne sait pas de quoi on l'accuse. Viol, agression, harcèlement.
Après 2 mois, Taha Bouaf sort du silence. Il a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour tout simplement défendre sa version des faits. Mais oui, on s'en souvient, Taha Bouaf avait été écarté de la candidature aux élections législatives après des accusations donc de harcèlement ou violence sexuelle, on ne sait pas très bien. Et d'ailleurs, c'est bien tout le problème. Parce que dans la lettre que publie Taha Bouaf, il explique que lui-même n'aurait jamais pu obtenir véritablement, tout simplement, la nature des accusations qui étaient portées contre lui. Le fait d'obliger quelqu'un à se mettre en retrait, le lui faire perdre toutes ses fonctions, le mettre à l'écart, le clouer au pilori sur les réseaux sociaux pour des accusations qui ne sont pas portées devant la justice et qui ne sont même pas mises au jour devant qui que ce soit, devant une quelconque instance. Il y a là quelque chose de profondément problématique. Nous l'avons dit et répété, la présomption d'innocence est un des fondements du droit, un autre étant le droit au contradictoire, le fait de pouvoir faire entendre sa version. Alors, le courrier de Taha Bouaf est tout à fait intéressant. En effet, il contient absolument toutes les critiques que l'on peut apporter aux méthodes qui sont mises en place par certaines associations féministes, par certains mouvements. La figure de proue de tout cela étant notamment Clémentine Autain, justement. Taha Bouaf explique qu'il y a quelque chose de terrifiant à se voir accusé sans qu'on sache jamais qui accuse et quelle est même la nature des accusations. On croirait un procès soviétique. Il faut relire toute la grande littérature antitotalitaire pour comprendre ce que ça signifie pour un accusé de n'avoir même pas accès à son dossier, de ne pas savoir ce qui lui est reproché, alors même qu'on lui demande d'avouer. Et c'est bien ça qui se passe. Mais on peut regretter tout de même une petite chose. D'ailleurs, plusieurs. La première, c'est que Taha Bouaf ne s'émeuve de ses méthodes que quand elles le touchent lui. Et c'est vrai d'absolument tous ceux qui ont droit à ce genre de traitement, qui sont les premiers à considérer que la parole des femmes doit, en tout état de cause, toujours et partout, être considérée comme vérité vraie, sauf quand ils s'aperçoivent que ça vire au cauchemar. Parce qu'il y a une différence entre écouter, entendre la parole des femmes et la croire parce qu'elles sont des femmes.
C'est amusant ce combat des woke féministes. Les femmes sont intouchables, les femmes sont des victimes, les femmes sont maltraitées par les hommes. Je rappelle juste qu'il existe des hommes maltraités par les femmes, mais bon. Alors, que penserait-elle de la chanson de Chan et Créole, deux chanteuses gabonaises ? Voici Bonobo.
Tu sais que tu me prends la tête. Faut surtout pas que mon chéri l'apprenne, non. Si t'as les crocs, viens prendre mon numéro. Yeah, yeah. Et ce soir, sois mon super héros. Oh, yo, oh, yo, oh, yo. vois pas les beaux. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo. Il faut que tu me ken comme un bonobo. Un bonobo, un bonobo. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo. Il faut que tu me ken comme un bonobo. Un bonobo, un bonobo. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Cette seconde pour le septième ciel. Ouais bébé, je sais qu'on se connaît à peine. Il faut qu'entre nous ça reste un secret. Oh oui. Chanter à ton oreille quand tu t'endors. Je veux dévorer chaque partie de ton corps. Baby, montre-moi ce que tu vaux. Mes copines m'ont dit que t'es un bonobo. Approche-toi, ne joue pas les beaux. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Quasimodo.
Elles ne sont pas plus vulgaires que Depardieu, ces chanteuses, selon les militantes. Puisque, ne l'oublions pas, certaines actrices porno sont offusquées par les propos de Gégé. Les femmes ont le droit de reluquer un cul de mec en lui demandant de la prendre comme un bonobo, dit la chanson. Les femmes ont le droit de pratiquer la pornographie la plus hard. Mais Depardieu, c'est-à-dire un homme, qui, pour une fiction, je le rappelle, se laisse aller à des propos salaces, devient la bête à abattre. Mesdames, arrêtez de faire de la misandrie. Le wokisme tend vers l'uniformisation. Tous les hommes, toutes les femmes, blablabla. Pour moi, le wokisme, c'est la dictature de l'ignorance, de l'abêtissement, de l'ennui. Avec les woke, fini l'humour, fini le rire. On n'a pas le droit de rire sur tout. Aussi, pour terminer cette émission, rien de mieux que le sketch de Dieudonné sur son chat Poutine.
Ça, c'est vrai parce que j'ai acheté un chat il n'y a pas longtemps. Poutine, je l'appelais. Je fais ce que je veux. Oh. C'était pour les gosses, quoi, un chat. Alors lui, il n'est pas stressé, hein, putain. Il dort 18 heures par jour. J'ai jamais vu ça. Hein. Au niveau économie d'énergie, tu ne peux pas faire mieux qu'un chat. Hein. Et quand il se réveille, c'est pas le marathon. Il se met sur un coussin, comme ça, et il fixe l'horizon. Pendant des heures, il est comme ça. Alors moi, je lui mets des coups de latte, toi. Je lui dis, non, tu sais, je l'ai acheté pour les gosses, faut qu'il bouge un peu quand même, le truc. Quoi. Puis quand je le pousse, il me fait... Oui. Ce pense qu'il peut se passer quelque chose. Ah, on fait comment? À moins qu'il se foute de ma gueule, c'est possible. J'ai réfléchi aussi à ça. Même lorsqu'il s'apprête à tuer, t'as l'impression qu'il est en paix, le chat. C'est fou. Hein. Tu le vois, il approche. C'est impressionnant de le voir à la chasse, putain. Parce que c'est un tueur en série que j'ai acheté. Hein. Dans le jardin, il tue tout ce qui bouge. Hein. Ah non, non, le chat, ça lape du lait au début, mais très vite, c'est du sang. Hein. À la paille. Dans le jardin. Ah non, mais il m'a fait des trucs. L'autre jour, je rentre, c'était un soir d'ailleurs, c'était après un spectacle, il y avait des plumes partout dans le salon. Je me suis dit, c'est bon. Il y a un piaf, il s'est trompé d'adresse. Bon. L'autre, il est tombé sur Poutine. Fallait pas. L'autre, il l'a invité à une séance de massage, pliage, repassage, option acupuncture. Parce que faut voir, c'est une arme de guerre, le chat. Tu verrais la rangée d'hameçons qu'il a au bout des chaussons. C'est impressionnant. Hein. Et alors, tu sais, il était sur son coussin, puis il m'a vu venir avec son regard du KGB. Là. Oh, bonsoir. Oh, je lui dis bonsoir, Poutine. Ben, qu'est-ce que c'est que toutes ces plumes? Oh, il me dit c'est à moi. J'ai dit, c'est impossible. Tu ponds des œufs aussi? Et là, il a vu qu'il s'était foutu de ma gueule, que j'avais vu. Alors, il me dit, ah, les plumes. Ça, peut-être, c'est quand on a joué avec Cui-Cui. Je pense que ça doit être ça, ouais. Et il est où, Cui-Cui, maintenant? Là, il lève les yeux, putain. Je découvre le dénommé Cui-Cui. Un genre de rouge-gorge. Enfin, il y avait du rouge, mais le truc... Il passait pas le contrôle technique. Il était en. Il était sur la fin, entièrement désossé, carrosserie, à l'atelier. Il était. La gueule en travaux. Hein. Il était complètement. Il était planqué sur une poutre, comme ça. Il avait un œil énorme, injecté de sang, qui fixait Poutine. Il était comme ça. Un film d'horreur. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, au secours. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, écoute-moi, Poutine, tu es en état d'arrestation, ça suffit les conneries. Il me fait miaou, je fais, ouais, c'est ça. Fais le chat, prends-moi pour un con, hein. On s'emmerde à t'acheter des croquettes pour t'éviter à décapiter des animaux et toi tu continues. C'est vraiment le vice que t'emploies, Poutine. L'envie de tuer, le goût du sang, tu t'en sortiras pas de ça. Oh, tu peux te lécher le trou du cul maintenant. Plus, il est rentré dans une étape, c'est les offrandes. Il nous ramène tous les animaux crevés du jardin, si tu veux. Il les dépose dans la maison. Dans son esprit, c'est pour participer aux frais, toi, de nourriture. J'ai dit, mais fous-moi ça dehors. Il m'a dit, dis donc, oh, les bons comptes font les bons habits. Je... Il a ramené une tête de hérisson à mon gosse. Le gosse. Ah, Manuel Valls, le petit, il était comme ça. Une libellule.
Pour le plaisir, je mets un autre sketch de Dieudonné, les psychopathes.
Mais de là à voir en moi un psychopathe, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. C'est vrai que bon, c'est la dernière étiquette qui me manque en même temps. Mais non, mais ça a été l'année des psychopathes en France. Hein. Moi, j'ai plus la télé, hein, j'arrête, ça m'intéresse pas. J'ai regardé le procès Fourniret, putain, sur Internet. Oh putain, le mec, il a fait avancer sa profession, le mec. Hein. Et c'est un gamin à côté de l'Autrichien, Fritz, celui qui a séquestré son enfant 25 ans dans la cave et qui l'a, tu sais, qui l'a violé tous les jours. Bon, ça, c'est l'école autrichienne, c'est autre chose. Le mec, c'est Mozart, on est ailleurs. J'ai fait un sketch là-dessus, tiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Une vie, une histoire ». Bonsoir à tous. Alors, ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait compté. On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. Ils sont là ce soir pour nous raconter... leur calvaire.
Nous allons commencer par vous, Françoise Bellejambe. Françoise, vous nous venez de Martinique. Bonsoir à tous nos amis des Antilles. Vous êtes... Bonsoir à tous nos amis. Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard d'origine antillaise qui a volé, violé, tué Françoise et parfois même dévoré près de 50 personnes, en majorité des femmes centenaires. Hein. Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a agi. Handicapés physiques qu'ils surprenaient dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. Il a été arrêté, Stéphane, en 1992, heureusement pour nous tous, Françoise, en compagnie de son collègue Fernand Lafarce, hein, dit le charcutier en chaussons. Hein. Il avait visiblement cette particularité de travailler en chaussons, qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Françoise, comment vit-on ces épreuves lorsque l'on est la mère du plus grand criminel français de tous les temps ? Avant que vous n'interveniez, Françoise, je tiens à remercier nos partenaires Coca-Cola Dash Machine et Panini Fromage. C'est à vous, Françoise.
Moi, je comprends pas. Nous ne pas comprendre. Pour moi, mon enfant, il est innocent. Il n'a pas tué la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il peut venir manger à la maison. Fais pas les colombos de grand-mère. Quand il est petit, toujours il est gentil à grand-mère. Fais des bisous à sa grand-mère.
Il faisait des bisous à sa grand-mère, je n'en doute pas, Françoise, mais pour d'autres grand-mères, non. C'était des grands coups de masse. Pour leur dérober quoi, en moyenne une centaine d'euros.
C'est plus près de 80 euros. Faut pas toujours enfoncer mon enfant. Il a pâté la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il est voleur, je reconnais. Il est voleur, c'est l'enfant voleur. Quand il est petit, toujours voler les gens. Il me volait, il s'est volé lui-même. Il est venu, maman, il m'a volé. J'ai dit, regarde dans ta poche. Il s'était volé lui-même. Parce qu'il est sacouépant. C'est l'enfant sacouépant. Tournique, tourniquet. Nous cartons, tourniquet.
Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements, Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tourniquet. À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure. Elle se coupe complètement de la conversation et répète ce mot, donc tourniquet, hein, tourniquet. Alors, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise. Au moment où je vous parle, voilà, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu. Je vais profiter de cette fenêtre. Alors, vous prétendez, Françoise, inlassablement que votre enfant est innocent, mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. Vous étiez vous-même au procès, vous êtes venu aux assises à Paris, vous avez entendu le juge.
Tourniquet. Y'a cric. J'ai dit le juge, et Mr. Cric. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Le tribunal a dit non, on ne dort pas. J'ai dit l'innocent, monsieur le juge. Il a dit non, le pas innocent. J'ai dit l'innocent. Ils ont montré la vidéo. On voit le gars de la vidéo. Le gros gars là, comme ça, qui est gauche la gommée. Avec les gros yeux d'Africain, comme ça. J'ai dit, c'est un Congolais que je vois. Mais c'est pas mon enfant. J'ai dit, il est innocent.
Oui, vous avez dit ça, effectivement, mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. Hein? Et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale. Il vous a dit, ferme-la, maman. Ferme ta gueule. Hein? Ce sont ses propres mots que je cite, hein? Évidemment. C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. Hein? Tu me fais chier, j'ai tout avoué. De toute façon, c'est mort, j'ai le sida, je vais crever. Dégage, s'il te plaît, dégage. Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Hein, il vous regarde et il vous dit, maman, maman, je t'aime.
Tourniquet, tourniquet, le Congolais m'a parlé.
Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il faut respecter le silence. Merci en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement, hein, de ce grand tourniquet. Alors, nous allons enchaîner et passer la parole à Patrick, qui lui nous vient de Belgique. Patrick, bonsoir Patrick. Patrick, vous êtes le frère du plus grand pédophile de l'histoire de votre pays et certainement d'ailleurs du monde. Vous êtes Patrick, le frère de Jacques Castafian. Castafian qui aurait, entre 87 et 98, violé, tué près de 100 petites filles. 96, c'est le chiffre exact.
96. Que triste record mondial. Lui qui n'avait jamais eu de médaille. Il vaut mieux en rire. Je suis le frère de Jacques. Le nom de Castafian est devenu imprononçable. J'ai fait l'erreur. Il y a quelques semaines, j'étais au Sénégal. J'aime me retirer loin de toute civilisation. J'ai fait l'erreur.
Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.